Je suis déjà béni par le Seigneur d'être présent ce matin. Je remercie le Seigneur d'avoir un lieu qu'on puisse se mettre à part, qu'on puisse se retirer du monde, pas pour cacher, on n'a pas besoin de ça, mais pour se mettre ensemble, pour en discuter des choses, à mon avis, qui sont importantes pour nous qui sont à la recherche ou peut-être qui sont au Seigneur ou qui cherche un lieu d'encouragement, peut-être un lieu d'apaisement, peut-être un lieu de recherche, de vérifier certaines choses, ou moins d'être libre de s'y interroger notre cœur et que le Seigneur nous rende disponible devant lui ce matin et libre dans sa recherche. Je voudrais commencer le moment de message ce matin en lisant un passage qui vient de Matthieu chapitre 13. Je voudrais commencer à verset 13. Matthieu chapitre 13, verset 13. C'est après Jésus a raconté la parabole de semeur. Les disciples s'approchaient à lui en demandant, mais on n'a pas tout à fait compris. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui se passe dans la parole, parce qu'on n'a pas tout saisi, on a l'impression qu'on a manqué quelque chose. Donc, ça c'est mon interprétation de ce qui se passait, d'après la parole qui est écrite là. Et Jésus commence à verset 13. « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. » Il parlait de groupe, le foule, le grand foule, et même des disciples. « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Et qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprenez rien. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisissez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne tournent pas vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, en parlant des disciples, vous êtes heureux, vos yeux voient, vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes n'ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. Ils désiraient entendre ce que vous entendiez, mais ils n'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entende le message qui concerne le royaume et ne le comprenne pas, le diable vient arracher et ce qui était semé dans le cœur. Tel est celui qui a reçu le semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit le semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Quand survient des difficultés ou la persécution à cause de la parole, la voilà qu'il abandonne toute. Un autre encore a reçu le semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais qui, elle, n'apporte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par des soucis de ce monde et par la traite trompeuse des richesses. Un autre, enfin, a reçu le semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et qui comprenne. Alors, il porte fruit. Chez l'un, un grain, en rapport 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. Seigneur, dirige nos pensées pendant ce moment. Nous nous tiendrons devant toi et nous te demandons de nous bénir. Aide-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, de ne pas chercher d'écouter et de voir ce que nous voulons voir, simplement ce que nous voulons entendre, mais simplement, Seigneur, que ton Esprit nous parle. Par ton amour, par ta grâce, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je ne sais pas comment ça marche en France. Je n'ai pas une carte de crédit française. J'ai une carte de crédit américaine. Donc, je vais vous expliquer certaines choses qui se passent chaque mois. Et si ça correspond à votre idée, très bien. Mais j'espère que je puisse faire la liaison de ce que je voulais dire par rapport à ce que je dise. Chaque mois, bon, ça fait longtemps, plusieurs années, j'ai cette carte de crédit, nous avons cette carte de crédit. Et chaque mois, on reçut une facture. Et pendant un moment, longtemps, en recevant la facture, il vous donne le montant du crédit que vous avez demandé pour les achats ou le tirer de l'argent sur le compte. Et il vous demande de payer tant, comme ça. Après les crises, et moi, j'ai travaillé dans un bureau de crédit il y a 40 ans. Ça fait long. Et j'ai compris ces choses. C'est pour cela que j'ai peur de la crédit. Parce que je sais comment ça peut séduire les gens. J'ai vu les gens qui étaient emballés avec la facilité d'acheter ce qu'ils voulaient acheter. Ils pensaient même, j'ai besoin de ça. Vous connaissez ce mot-là, besoin? Souvent, c'est plutôt accroché dans le sens de vouloir et pas forcément de besoin. Mais bon, chacun doit faire la part des choses dans leur vie. Mais attention, maintenant, après la crise, de ce qui se passait, ça a commencé en 2008, le gouvernement américain a passé des règlements qui obligent les compagnies qui offrent le crédit de donner plus de détails de ce qui se passe avec ce crédit et comment ça se déroule. Ça veut dire, maintenant je reçois une facture qui donne toujours le montant que je dois payer, que je me suis engagé d'acheter les choses. Voici, je le dois tant. Et dans la toute petite écriture, plus petit, en bas, ils mettent, si vous payez tant pendant 10 ans, vous allez payer tant, qui sera à peu près 20% de plus. Si vous voulez payer encore plus, vous payez que 5 ans. Mais vous êtes obligé de payer encore plus. Mais une autre petite phrase en bas de cette phrase, il est écrit, si vous manquez le paiement prévu pour le mois, ah, on va vous ajouter une certaine somme là-dessous, comme à pinoter. Ce qui n'est pas écrit là-dessus, ce que je connais, parce que je connais les règles, souvent selon les compagnies de crédit, si vous manquez un certain nombre de fois pendant l'année de ne même pas payer une certaine somme minimum, alors là, il augmente votre pourcentage d'intérêt. Donc, vous commencez à payer encore plus de ce que vous n'avez pas remboursé. Et ça continue, ça continue. Et donc, bon, si ça vous intéresse pour votre vie personnelle, peut-être ça vous intéresse d'y chercher pour voir est-ce que c'est important pour vous ou non, si vous avez tant de l'argent que vous en fichez, ou si ça vous intéresse d'arriver à faire la faillite un jour et vous ne payez plus rien, bon, ça c'est un autre choix. Tout ça, bon, c'est une question de discipline personnelle et c'est l'information que je vous offre gratuite. Mais la Bible nous offre l'information. Nous venons d'entendre la juste histoire, la belle histoire de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, l'œuvre que Dieu l'a préparée pour lui sur la croix. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que la Bible nous enseigne aussi, qui parle justement de l'adversaire biblique, le diable. Je crois qu'il est aussi difficile pour ceux qui ne croient pas en Dieu. De l'autre côté, il ne veut pas accepter non plus l'œuvre du diable. Je crois qu'il est très important, la Bible parle aussi bien que l'œuvre de Jésus-Christ, le désir de Dieu de nous sauver de nos péchés, la Bible nous explique aussi l'œuvre du diable. Nous voyons dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de références. Je n'ai pas vraiment le temps de tout réfléchir, de tout mentionner ce matin, mais nous voyons plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui parlent de la création du diable en Ézéchiel, d'où il vient, ce qui se passe, une révolte dans le ciel vis-à-vis Dieu, et c'est Dieu qui est obligé de le mettre en dehors du ciel avec ses anges. Nous voyons aussi qu'en Job, dans l'Ancien Testament, l'histoire où le diable est allé auprès de Dieu pour essayer de faire tomber Job dans son démarche avec la vie spirituelle. Donc nous voyons bel et bien, même dès le début en Genèse, le personnage qui se présentait en serpent, qui a tenté Adam et Ève de se révolter contre l'obéissance de Dieu. Donc le diable, il est bien vrai et réel comme personne. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jésus était même tenté par Satan en plusieurs choses. Jésus était aussi confronté par les gens qu'il a reconnu Jésus comme fils de Dieu. Nous voyons aussi comment Pierre était mis à l'épreuve par Satan en Luc chapitre 22. Nous voyons même que la parole nous dit que Satan se mit en Judas pour trahir Jésus. En Jean chapitre 10, verset 10, nous voyons la parole qui nous dit « Le diable, l'adversaire de Dieu, il est venu ou il vient pour dérober, tuer les brebis de Dieu. » Nous voyons dans l'Acte des Apôtres, il se situait où Ananias et Saphira, ils voulaient tellement avoir de l'argent et la richesse qu'ils ont menti, ils ont dit un mensonge aux autres pour garder de l'argent pour pour eux-mêmes. Même parfois, Paul, en 2 Corinthiens, nous pose l'idée qu'il est même un piège de Satan de ne pas vouloir pardonner quelqu'un d'autre qui vous avait fait mal, un frère ou une sœur. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est un piège de Satan. Jacques nous instruit que le diable est à l'origine des querelles, les disputes entre les frères et les sœurs en Christ. Nous voyons en Révélation que le diable est devant Dieu, il cherche toujours de nous discréditer. Il est toujours là pour faire les injures les uns envers les autres, de nous citer même, d'injurer les uns les autres. Ça, c'est l'œuvre du diable. Les titres bibliques, ce sont Satan, le malin, diable, père de mensonges, étoile brillante, étoile de jour, prince de pouvoir du ciel, prince de ce monde. Il est aussi associé avec les ténèbres, les contrefaçons, le soupçon envers les autres, la dispute, la division, la destruction, celui qui enlève la vie des autres et bien d'autres choses. Nous voyons que l'œuvre du Satan se présente par un manque de paix, un manque de la vie spirituelle, la recherche de bénéfices court terme sans se discipliner. Nous voyons dans les histoires bibliques que c'est Satan qui a semé les mauvais grains dans le champ qui produisait rien de tout, mais qui faisait semblant. Il est l'auteur de mensonges, il est accusateur des frères et des sœurs en Christ. Dans la tentation de Jésus, nous voyons qu'il était tenté en plusieurs choses. À mon avis, je vois les choses en général en trois choses, trois genres. La tentation, Satan voulait faire tomber Jésus vis-à-vis son obéissance et son être devant Dieu, comme fils de Dieu. Il a essayé d'utiliser le ruse de nourriture, le besoin quotidien, si vous voulez. Matthieu 6, 33 nous dit, n'est-ce pas, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données dessous. » Nous voyons que Satan, il a tenté, à mon avis, d'utiliser la question de santé de Jésus. « Lance-toi du temple et c'est les anges qui vont prendre soin de toi. » Je sais qu'il y a beaucoup de publicité sur la santé aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on veut acheter ce produit, on veut que vous achetez un tel produit, tout ça, mais je crois quand même que la santé, c'est quelque chose de très important. Il faut se discipliner nous-mêmes. Mais Jésus était tenté à la question, à mon avis, de santé. Il était aussi tenté vis-à-vis le pouvoir et les possessions. Satan lui a dit, mais si vous vous agenouillez devant moi, je vous donne tout. Plus loin, dans Matthieu, chapitre 13, nous voyons l'œuvre du diable. D'abord, il est venu, il a enlevé tout de suite la parole qui était semée pour ceux qui n'ont pas saisi ce qui se passe. on peut décrire une vie de quelqu'un qui ne voulait jamais aller à l'église. Vous passez les paroles aux gens, vous partagez votre foi aux gens, et ils ne vous écoutent pas. Ils ne font pas attention, ils passent de l'autre côté, ils ne reçoivent pas la parole. Nous voyons aussi que ceux qui avaient leur vie ils venaient à l'église, peut-être ils voulaient, oui, frapper les mains, chanter avec gloire, le joie et tout ça, et même peut-être d'être devant au premier rang parfois. Ils sont contents, mais au bout d'un moment, la vie le tente et il s'en va, il ne revient plus. Ne suis pas Jésus. Nous voyons aussi les personnes qui avaient tellement de choses dans leur vie, ils n'avaient pas le temps vraiment d'accueillir la vérité de Dieu. C'est l'errance dans leur vie, les complications dans leur vie, les difficultés dans leur vie, les activités dans leur vie. Et puis nous voyons un cœur honnête qui était bien disponible devant Dieu. Je voudrais justement citer certaines choses vis-à-vis la vie disponible devant Dieu. Frédéric vient de citer le passage tout à l'heure qui parlait d'Éphésiens chapitre 6 et l'armure de Dieu pour chacun de nous qui sont des enfants de Dieu. Chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10, Paul dit, « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et du sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre ce monde, contre les ténèbres, contre les autres esprits du mal dans le monde céleste. Écoutez-moi bien, s'il y a quelqu'un d'autre, même un frère, une sœur, qui vous fait mal, qui vous fasse mal, ça ne vient pas forcément d'eux. Peut-être eux, ils se lient avec Satan. Non, ce n'est pas du tout. Mais c'est certain, Satan qui veut vous faire tomber à travers cette circonstance. Je crois que c'est par là, Jésus, il a donné l'avertissement dans le Nouveau Testament, faire attention, il vient écrit, il y a certains qui vont tomber, ça c'est vrai, mais faites attention que vous n'êtes pas la raison pour laquelle ils se sont trompés vis-à-vis leur foi dans le Seigneur. Notre exemple, notre vie, c'est très important. Je voudrais revenir sur ces versets en disant, il y a quelque chose à faire, il y a un choix à faire. Il dit, mettons l'armure de Dieu. C'est une action continuée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, mais c'est quelque chose qu'il faut se développer. Il faut y travailler dans notre vie quotidienne. Et là, en verset 11, il a mis un mot qui est très important, qui nous signale encore quand même comment le diable il travaille. Il a dit « contre toutes les ruses du diable ». Le diable ne vient pas en disant si vous demandez le crédit, vous me remboursez le crédit, c'est tout. Non. Le diable, il demande le paiement des crédits avec intérêt et même augmentation de valeur des choses dans notre vie. Vous ne suivez pas la volonté du Seigneur? Il va l'en prendre d'autres façons dans votre vie en plus. Vous allez suivre un chemin qui allait vous en bouffer de tout. Mettons l'armure de Dieu. Romains 13, 14, 11 à 14 dit « Faites ceci autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. » Quelqu'un qui sommeille là? C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous que lorsque vous imaginez. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui fait dans le ténèbre et revêtons-nous de l'armure de lumière. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie ni buverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne préoccupez pas de satisfaire le désir de l'homme livré à lui-même. C'est une demande. Paul a dit, mettez-vous l'armure de Dieu. C'est pas si vous avez envie. Il n'a pas dit, si ça vous convenait, si vous pouvez arriver de ranger vos horaires, très bien. Il a dit, il est très important de mettre l'armure de Dieu. Il est écrit d'une histoire dans le passé. Comme on dit, quand on est obligé de faire le service militaire, qu'est-ce que c'est le mot là? Conscription, voilà, merci. C'est ça le mot. Merci. Conscription. Est-ce que c'est votre choix? Voilà. On est plus ou moins obligé, n'est-ce pas? On est obligé de soit faire le service militaire ou de faire autre chose, mais vous êtes plus ou moins obligé. Dans le passé, tenez-vous bien, dans le passé, les Américains recevaient des lettres de la part, monsieur, bonjour monsieur, de la part du président des États-Unis, mon cher compatriote, félicitations, j'ai le privilège et l'honneur de vous inviter, de vous présenter pour un contrôle fiscal, physique, pour vous joindre à nos services militaires. Moi, j'ai reçu une lettre comme ça une fois. Alors là, ça m'a choqué vraiment. Je me dis, oh, c'était 3 mois avant de me marier avec Sarah. Et je me dis, ils ont déjà envoyé les invitations, ils ont déjà engagé toutes choses. Et même ma belle-mère m'a déjà prévenu quand elle a commandé les invitations. Elle dit, ah, tu n'as plus le droit de sortir maintenant, tu es coincé. Je dis, oh là là, déjà? Je n'ai même pas pensé. Ce n'est pas un choix. Bon, pas un choix. Oui, vous pouvez choisir. Ce n'est pas le fait que vous n'êtes plus libre. Ce n'est pas ça. Mais si vous voulez vraiment faire le meilleur des choses, le meilleur choix, c'est de choisir le Seigneur Jésus, de vous habiller avec ce qu'il nous présente. J'irai plus vite alors. Notre force est dans le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, endossez-vous, habillez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma sagesse, c'est la sagesse du Seigneur. Il sait qui nous sommes, il sait ce qu'on possède. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour nous ce matin, de se rendre compte que nous devons mettre le Seigneur dans notre vie. Nous devons nous habiller avec la parole du Seigneur, avec Jésus-Christ. Finalement, nous devons mettre toute l'armure de Dieu pour y vivre. Toute l'armure de Dieu pour y vivre. Matthieu 6, 5, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais comment tu peux nous aider? Est-ce que, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous aider de prier? Une chose, Jésus a dit, Il ne suffit pas simplement de répéter les choses. Il ne suffit pas de faire les choses, des gestes, simplement pour que les autres puissent voir. Il faut que ça soit réel entre toi et le Seigneur Jésus. Donc, troisième chose, ça doit être appliqué à notre vie. J'ai pensé hier, pendant le mariage, et j'ai pensé après tant de mariages qui se passaient dans cette église, je me suis dit, mais tous les jeunes couples doivent se comprendre que le temps passé avec le Seigneur individuellement et ensemble est très important pour construire une vie dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Je crois que c'est par là les advertissements souvent que Paul a donné de faire attention nos liaisons. Faire attention parce que nos liaisons sont très importantes. Comment voulez-vous, je m'appelle, il y avait une dame qui était à Bordeaux qui se mariait avec un non-croyant. Et venait souvent à l'église et se plaignait, mais mon mari ne m'aide pas, il ne fait pas ça, il ne fait pas les choses pour m'aider à l'église et tout ça. Et je lui ai mis une fois, je lui ai mis Mireille. Joseph, il n'est pas croyant. Comment voulez-vous qu'il vous aide? Il ne sait rien, il ne sait pas comment vous aider. Peut-être même au contraire, il est opposé. Oui, mais... Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis quand même, il faut faire attention que nous mettons nos cœurs ensemble et individuellement de vivre selon la volonté du Seigneur. Mettez nos propres armures. Nous ne pouvons pas vivre notre vie parce que quelqu'un d'autre vive comme il faut. C'est à nous d'endosser toutes nos armures nous-mêmes. Vous vous souvenez de l'histoire dans l'Ancien Testament où David, quand il était confronté avec Goliath, on lui a offert de mettre les vêtements d'un soldat beaucoup plus grand que lui et même l'armure, une épée beaucoup plus grande qu'il avait la facilité d'utiliser. Ça ne lui servait rien de tout. Nous devons nous-mêmes prendre ce que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Il y a une façon de le faire que Paul nous donne en Éphésiens chapitre 6. D'abord, la vérité doit être importante dans notre vie. Vivez la vérité de Jésus-Christ. Deuxièmement, droiture dans notre vie. Il ne suffit pas simplement de savoir ce qu'est la vérité, mais il faut que ça soit appliqué à notre vie quotidiennement. Service. Mettez-vous au service du Seigneur, aux autres, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez... Ça fait part de l'armure de Dieu. Ah, mettez les chaussures de paix. Est-ce que quand vous passez dans la présence des autres, est-ce qu'il peut dire, ah, avec lui, j'ai senti la paix. Où est-ce qu'il sent? Louis le Seigneur! Allez, lis la parole du Seigneur. Oui, oui. Je crois que vous voyez, c'est une exagération peut-être de ma part. Mais est-ce que nous apportons du paix envers les autres au nom de Jésus? Souvent, j'entends dans les messages « Allez en paix !» Mais l'idée du paix, ce n'est pas simplement que nous ayons du paix, mais que nous soyons des portes du paix aussi. La paix de Dieu vient dans le monde à travers nous qui sommes des témoins de l'œuvre de cette paix. On ne peut pas exagérer, hein? La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Est-ce que ça se manifeste dans votre vie? Ce matin, en prenant le petit déjeuner, comme notre habitude en principe, on a lu un passage biblique qui parlait justement du sujet de comment les autres nous voient. L'histoire, c'est après un homme qui... il a un autre homme qui est venu envers lui en demandant lui de prier pour ma sœur. Et tout de suite, lui, il a mis, alors là, comment je peux prier pour sa sœur? Parce que quand j'étais au boulot avec lui, il m'a critiqué. Il m'a lancé des mensonges, il m'a lancé des choses contre moi à cause de ma foi. Comment je peux prier pour lui maintenant, pour sa sœur? Il a dit, alors, pourquoi je dois prier pour ta sœur? Parce qu'elle meurt avec un cancer. Et je sais que vous êtes croyant. Et j'aimerais bien vous demander de prier pour moi, parce que moi, je ne peux pas. Quel est notre témoignage? Est-ce que nous recevons des cartes de crédit, nous connaissons toutes les petites lignes dans la vie quotidienne? Est-ce que nous connaissons toutes les lignes et on les garde pour nous-mêmes? On ne le pratique pas. On le pratique comme on veut, quand on veut, si on peut. Où est-ce que nous avons la force dans le Seigneur Jésus qui nous tire? Allez, plus loin, plus loin. C'est important. C'est important. Que le Seigneur nous aide de ne pas être comme les gens dans lesquels Jésus a cité en voyant et en écoutant, ils ne comprenaient rien de tout. Peut-être parmi ceux ce matin, il y en a quelques-uns que le diable, il est prêt, dès que vous sortiez cette porte, il est prêt d'arracher avec tous les intérêts autrement du monde, il est tout prêt de tout tirer de votre présence, de votre réflexion. Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour tes bénédictions, ton amour et ta grâce, ton message à travers Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.